Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libero per il traversone pericoloso, amore! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco, tiro! Grosso! Grosso!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien, une fois n'est pas coutume. Je ne suis pas en compagnie de Guillaume, mais l'invité du jour est Julien Laurence, correspondant en Angleterre pour RMC, également journaliste pour ESPN, TNT Sports et beaucoup d'autres. C'est bien simple, Julien, mon cher Julien. Dans les nouvelles télé connectées, il y a des télécommandes avec, tu sais, le petit bouton Netflix. Et bien bientôt, il y aura à côté du bouton Netflix le bouton Julien Laurence et on se connectera directement à la chaîne en direct avec Julien Laurence, que tu es partout en permanence.
Bonne idée, ça.
Hein, c'est pas mal. Hein. Salut, Julien.
Salut, Moyo. Salut à tous. Merci de m'avoir invité sur le podcast. Hein, c'est vraiment cool.
Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'Angleterre, mais avec toujours un lien, évidemment, avec l'Italie. On va se pencher sur l'aventure de Roberto De Zerbi en Angleterre, à Brighton, décortiquer un petit peu son travail, voir ce qu'en dit la presse britannique, voir un petit peu la connexion avec les joueurs, avec l'environnement, avec la ville. Il y a pas mal de choses intéressantes parce que c'est un coach qui ne laisse pas insensible, un coach passionné. On va l'évoquer tout au long de ce podcast-là. Et Julien, je voulais commencer par un petit bond dans le temps. Nous, on le suivait beaucoup en Italie parce qu'évidemment, Sassuolo, et donc ça a été un événement majeur. Sassuolo étant un petit club italien, ça s'est surtout limité à l'Italie, même si allez, les quelques personnes spécialisées à l'étranger pouvaient en parler un petit peu. Quand il est nommé à Brighton, donc c'est en remplacement de Graham Potter qui part à Chelsea,
c'est ça. Ouais.
Un peu à, j'allais dire à l'arrache parce que c'est en cours de saison, en début de championnat lancé entre guillemets. Qu'est-ce que les Anglais connaissaient de Zerbi et comment ils ont évalué son arrivée?
C'est une très bonne question. Ils ne connaissaient pas grand-chose, pour être honnête. Les Anglais, comme tu le sais, comme vous le savez, ne s'intéressent pas trop vraiment à ce qui se passe en dehors de leur île à eux, de leur pays à eux. Même si le football italien est, je pense, quand même des autres quatre championnats le plus suivi, encore plus que l'Espagne, vient après, je pense, l'Allemagne et nous la Ligue 1 en dernier. Parce que dans les années 90, il y avait une émission ici à la télé anglaise sur une chaîne terrestre, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de joueurs anglais en Italie, ça vient de là. Mais malgré ça, Sassuolo, De Zerbi, ses idées, ses principes, son football, pas trop. Même s'il avait déjà été, avant d'aller à Brighton, courtisé, ou en tout cas, il avait été... quand on parlait d'un entraîneur, que Tottenham cherchait un entraîneur, par exemple, son nom avait été mentionné. Pareil à United. Voilà, il y avait quand même quelques liens, notamment dans les médias, par rapport à De Zerbi et des postes d'entraîneur ici en Angleterre, en première ligue, pour des clubs de première ligue. Mais c'est vrai, quand il arrive, voilà, c'était un peu le Arsène Wenger des, tu vois, de 2023, finalement. C'était de 2022. C'était Roberto qui Roberto, voilà, on avait eu un Roberto Mancini, on avait eu, mais là, c'est vrai que c'était nouveau. C'était nouveau, un petit peu comme un Sarri, mais encore plus, si tu veux, parce que Sarri, au moins, certains l'avaient vu en Ligue des Champions, ils l'avaient vu avec le Napoli, tout ça. Là, c'est vrai que c'était vraiment, d'accord, c'est qui ce gars, d'où il sort, Sassuolo, le Shakhtar, c'est quand même pas non plus, pour les Anglais, tu vois, le CV en or, tu dis, oui, d'accord, je me rappelle de lui ou quoi. Donc, c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu, pas forcément sceptique, c'était pas du scepticisme, c'était plus, d'accord, on connaît pas le gars, mais vu la façon dont Brighton est vu ici en Angleterre, ce club qui est très bien dirigé, qui a souvent des bonnes idées, en qui tu peux avoir confiance quand ils font un choix pareil d'entraîneur ou de joueur, je pense que tout le monde s'est dit, s'ils le prennent, c'est qu'il doit y avoir quelque chose quand même.
Tu sais, au moment du match de Ligue Europa, je ne sais pas si tu avais vu ça, je crois que c'est l'équipe qui était revenue un petit peu sur la touche, entre guillemets, qu'avait eu De Zerbi avec l'OM, avec Pablo Longoria notamment, et un des trucs qui avait amené un peu de scepticisme, visiblement raconté par l'équipe, en tout cas chez Longoria, c'était le parcours du Shakhtar en Ligue des Champions, qui avait été vraiment pas fameux pour le coup. Ils étaient tombés dans le groupe de l'Inter, du Real et du Sheriff. Ils s'étaient même fait battre par le Sheriff Tiraspol.
Il avait battu Monaco en...
Exactement.
Ça, ouais.
Est-ce que ce petit couac européen, parce qu'on en attendait plus, et le Shakhtar a été habitué quand même à être plutôt compétitif en phase de groupe de Ligue des Champions, ça a été tout de suite souligné en Angleterre ou même pas finalement, et c'était juste, voilà, c'est un entraîneur italien qu'on ne connaît pas.
Pas du tout. Ça l'aurait peut-être été s'il avait signé à United, à City, à Arsenal, ouais. Voilà, peut-être un plus gros club. Brighton, je crois que leur meilleur classement, c'était 9e dans toute leur histoire. C'est une équipe jeune en première ligue. En 2011, ils jouaient encore en 3e division. Ils n'avaient pas de stade, pas de centre d'entraînement. Donc, ne serait-ce que la 9e place avec Chris Hughton à l'époque, ça, ils signaient des deux mains, des deux pieds. Enfin, tu vois, c'était. Donc, c'est vrai, quand il arrive, c'est peut-être un petit peu différent de l'OM qui avait vraiment besoin de quelqu'un qui ait cette expérience-là européenne, bon, même si Marcelino, après, comme on l'a vu, ou même Tudor, c'était pas ça, mais pour Brighton, en tout cas, personne s'est vraiment posé cette question-là en disant ce qui s'est passé au Shakhtar, ça laisse un petit peu à désirer, ou ce qui s'est passé à Solo, oui, mais c'était un petit. La seule chose, peut-être, c'est ce qui revient toujours avec les Anglais, que ce soit joueur ou entraîneur, c'est il n'a aucune expérience de la Première Ligue avant, ou de l'Angleterre, du football britannique dans son ensemble. Il va falloir du temps pour qu'il s'adapte, etc. Ça va être très compliqué pour lui. Voilà, c'est ce que les Anglais ressortent toujours pour n'importe qui. Et souvent, en plus, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas du tout prouvé.
Est-ce que son niveau d'anglais, ça a été un thème? J'avais écouté Paul Barber, qui doit être CEO, je crois, du club, si je ne dis pas de bêtises. Qui est quelqu'un de hyper intéressant, je trouve, à chaque fois en interview, ouais. Etc. Même sans parler de Zerbi, hein, sur la construction de Brighton, il y a plein de trucs intéressants.
Ouais.
Il disait, quand on s'est rencontré avec De Zerbi, déjà la réunion a duré 6 heures. Il a dit, ce qui est plutôt bon signe, parce que quand on passe du temps avec quelqu'un, c'est que les choses avancent plutôt bien et très rapidement. Ouais. Et il avait dit, son niveau d'anglais est OK. Il avait dit, ce qui m'avait marqué, moi, c'est que De Zerbi avait voulu parler anglais malgré toutes ses limites un petit peu de vocabulaire, etc. Ça montrait qu'il avait vraiment envie déjà de s'imprégner de l'anglais, de l'Angleterre, etc. Est-ce que ça a été un thème? Parce que moi, je me souviens, on avait parlé dans l'after, d'ailleurs, tu te souviens, je ne sais plus à propos de qui on en avait parlé, mais on était revenu sur Unai, comment on s'était moqué de lui en France, etc. Et tu avais parlé de comment on s'était moqué de lui un petit peu en Angleterre. Ouais. Est-ce que ça a été un thème, son niveau d'anglais?
Pas trop, parce que je pense qu'il a surpris tout le monde finalement, avec un niveau pas exceptionnel, mais suffisant, un accent suffisant aussi. Je me suis même dit à un moment, peut-être qu'au Shakhtar, il parlait en anglais, peut-être qu'il avait appris l'anglais pour aller au Shakhtar ou pendant qu'il était au Shakhtar, même si force, il n'y a peut-être pas de lien finalement, et ce n'est peut-être pas le cas. Lui, on n'a pas trop parlé, mais les Anglais, je pense qu'ont été étonnamment surpris finalement par le fait que tout de suite, quasiment, et alors pas tout de suite, parce qu'il avait quand même fait quelques interviews d'avant-match et d'après-match avec le traducteur, ouais. Hein, il écoutait la question, il répondait en italien, voilà, mais assez rapidement, finalement, il a commencé à tout faire en anglais. Pour moi, c'est une grosse marque d'intelligence, déjà, deux, de volonté et de travail aussi, parce que bon, tu n'apprends pas l'anglais non plus comme ça. Et je pense que à Brighton, on n'a jamais vu ça finalement comme un obstacle en fait. Le fait que malgré une idéologie de jeu très structurée, très précise, très développée, tout ce que tu veux, que même avec un anglais un peu limité au début en tout cas, qui serait capable de transmettre ses idées, que les joueurs allaient comprendre, même s'il a un vocabulaire au départ de, je sais pas, on va dire 100 mots, 150 mots peut-être, un truc comme ça, pas plus, j'imagine, que ça allait suffire en fait. Et je pense que certains clubs auraient pu dire, je vois je vois comment il veut que son équipe joue, on l'a vu à Sassuolo, on l'a vu un peu au Shakhtar, avec son niveau d'anglais, c'est impossible, ça va pas marcher, ça va clasher, les joueurs vont pas comprendre, ça va être le bordel, il faudra un traducteur sur le terrain à l'entraînement. Tu les vois, les traducteurs, ceux qui sont partis en Chine ou je sais pas où, t'as le gars, il te suit comme ton ombre, à chaque fois, tu dis trois mots, il traduit les trois mots, tu dis trois autres mots, c'est impossible, quoi. Eh ben, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'à Brighton, ils se sont dit, il va progresser en anglais de toute façon, quoi qu'il arrive, et il est tellement bon dans ce qu'il fait que les joueurs comprendront, même s'il a un vocabulaire un peu limité.
Et en plus, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il y avait quand même quelques Sud-Américains qui étaient déjà là ou qui sont arrivés ensuite. Et lui, il parle un peu espagnol, même plutôt pas mal. Donc c'est vrai que aujourd'hui, avec italien, espagnol, anglais et même quelques mots de français, alors je ne sais pas si ça va beaucoup lui servir à Brighton, mais en tout cas, il a quelques mots de français aussi. C'est un entraîneur aussi qui devient vraiment international, tu vois, pour le coup. Et dans la suite de sa carrière, je pense que ça va beaucoup l'aider. Notamment lui qui met tellement d'importance sur... les relations humaines, au-delà même de tout l'aspect technique, tactique, etc., mais les relations humaines qu'il développe avec les joueurs, leur faire comprendre exactement ce qu'il veut, discuter avec eux de football, mais de la vie de tous les jours, de plein de choses, de la famille, de comment ils vont, etc. Je pense que ça l'a un peu frustré au début.
Ouais, c'est possible.
Il disait même un peu en conférence de presse, tu vois, plusieurs fois il disait, vous avez bien compris ce que je voulais essayer de vous dire,
Ouais, oui,
etc.,
c'est
tu
vrai,
vois,
je me
parce
rappelle
que,
ça, je me rappelle, ouais.
tu vois, c'est quelqu'un de très pointilleux, donc en fait, ne pas pouvoir s'exprimer avec autant de vocabulaire qu'il voudrait, parfois ça l'a un peu frustré. Et je pense que plus ça va aller, plus il va être détendu à ce niveau-là et plus ça va être fluide aussi.
Ouais, mais je pense que la frustration aussi a accéléré finalement son apprentissage plus développé de l'anglais. Si tu veux. Je pense que si tout le monde avait été OK au début, il se serait dit, bon, d'accord, je vais continuer à apprendre, mais je n'ai pas besoin finalement d'apprendre trop vite parce que tout le monde comprend assez. Le fait qu'il ait cette frustration, il s'est dit, bon, voilà, je vais mettre les bouchées doubles parce que tu vois, tu as vraiment vu la progression même dans son anglais, même dans certaines expressions, dans certains mots de langage qui sortaient à un moment, tu disais, ah ouais, d'accord, parce que tu t'y attendais pas, tu vois. Et donc, je pense qu'il a travaillé là-dessus aussi.
Il y a un mot qui est très important chez lui, c'est la passion. Dans toutes ses confs de presse, avant match, après match, il en parle. Est-ce que c'est quelque chose qui a séduit les Anglais, ce côté un peu passionné, pas forcément d'ailleurs lié tu sais, au tempérament méditerranéen, etc., mais vraiment le côté 24 sur 24. J'en avais parlé avec lui lors de la seule interview que j'ai fait avec lui, mais quand il est arrivé au Shakhtar, je lui ai dit, bah voilà, donc c'était pas à Donetsk, évidemment, qui jouait, c'était à Kiev. Et je lui disais, voilà, il y avait une journaliste lors de sa conférence de presse de présentation qui lui a dit, vous allez découvrir Kiev, qu'est-ce que vous connaissez de la ville, etc. Et il avait répondu, bah en fait, moi, c'est simple, hein, c'est football, hein, donc la ville, je pense que je ne vais pas voir grand-chose, etc. Et ce côté passionné, acharné, presque maladif, est-ce que ça séduit aussi les Anglais?
Ouais, alors ces conférences de presse, elles sont vraiment intéressantes. Le problème, c'est que notamment chez les tabloïds, on aime les punchlines, on aime les histoires. Tu vois, c'est les trucs intéressants, un peu trop tactiques. Les Anglais, ça les passionne pas trop. En tout cas, certains. Mais je pense que le fait effectivement qu'on voit à quel point il était investi déjà. C'est ce que les Anglais, et surtout les supporters, enfin, dans n'importe quel club, hein, c'est pas qu'en Angleterre, mais ici aussi, c'est de voir que le gars, il est investi, que tu vois qu'il est passionné pas juste dans le foot, mais dans réussir dans le club où il vient d'arriver. Et ouais, et ça, je pense que tu l'as vu tout de suite, en fait. Tu l'as vu tout de suite, le match à Liverpool, le match de Liverpool, qui est le match, le 3-3, c'est le match qui l'annonce finalement. Tu vois, les Anglais qui ne le connaissaient pas, carré, qui voient ce gars arrivé avec ses cheveux, avec son petit goatee là, qui parle un anglais un peu de débutant, on va dire. Et là-bas, voilà, je me rappelle, en plus, je crois qu'il faisait très beau. Enfin, tu vois, c'était parfait. En plus, je crois que c'était un early kick-off, donc je pense que c'était le premier match peut-être du samedi ou un truc comme ça. Ou le dernier, enfin, je sais plus. Mais les gens, ils se sont dit, ah ouais, d'accord, ok. Et tu le voyais sur la touche, tu voyais ce qu'il disait, tu voyais les joueurs qui étaient tout de suite, tu voyais la connexion déjà, alors qu'il était là depuis 3 minutes. Donc ça, ouais, les Anglais, ça compte beaucoup pour eux. Après, Jacques Santini, par exemple, tu savais à la base que je sais pas pourquoi je pense à lui, mais en fait, je cherchais dans ma tête au moment de ta question, est-ce que je peux trouver un entraîneur étranger en Angleterre qui était l'opposé de Roberto? Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à Johnsoni, mais lui, tu vois, deux tensions. Alors lui, son anglais, c'était, mais je sais pas, l'anglais de ta maîtresse des années 50, tu vois. Les Anglais, alors en plus, ça n'a pas fonctionné pour lui, donc bon, c'est différent un peu, mais ils n'ont jamais accroché du tout, du tout, du tout. Tu vois? Donc, lui, au moins, il n'aurait peut-être pas eu de résultats comme il a eu. Je pense que les Anglais auraient vraiment apprécié ce côté passionné, ce côté investissement, ce côté, voilà, je suis tellement content d'être ici, quoi. Je suis en première ligue. Et il l'avait dit d'ailleurs au départ, hein, il a dit, moi, vous ne vous rendez pas compte, mais de venir coacher ici, pour moi, c'est incroyable, quoi. Donc, voilà, lui, l'ancien numéro 10 qui a pas eu la carrière qu'il aurait peut-être dû avoir ou qui était vraiment, vraiment talentueux. Voilà, il s'est retrouvé en Angleterre à un moment peut-être où il s'y attendait le moins, on va dire, entre guillemets. Et tu voyais tout de suite qu'il était super content d'être là, quoi.
Et puis oui, de façon totalement inattendue, parce que c'est ce que disait Barber. Sans la guerre en Russie-Ukraine,
Exactement.
il n'aurait jamais été disponible pour parler avec Brighton, en fait. Donc,
Oui, et puis tu vois, sans la guerre donc Russie-Ukraine, Abramovich ne vend pas Chelsea. Peut-être qu'il garde Tourelle. Les Américains arrivent, ça ne se passe pas bien avec Tourelle. Ils virent Tourelle, ils prennent Potter parce que voilà. Et donc les dominos font que c'est comme ça que Roberto arrive chez nous et à Brighton.
pour ceux qui ne connaissent pas, Brighton, c'est quoi en Angleterre? C'est quel type de ville? C'est quel type de relation par rapport au football? Parce qu'on vient de parler d'un mec ultra passionné qui ne vit quasiment que pour le football. Comment il s'insère dans l'environnement de Brighton et qu'est-ce que l'environnement de Brighton?
Ouais, c'est intéressant. Donc, c'est une ville du sud de l'Angleterre, donc sur la côte. C'est en train, je crois, c'est 45 minutes de Londres, je ne me rappelle plus trop, ou 1 heure, on va dire, de Londres en train. Donc, au sud de Londres, qui est une des villes les plus branchées d'Angleterre, vraiment. Donc, c'est une ville avec une grosse communauté homosexuelle, par exemple, mais qui vit bien, qui s'assume, qui n'est pas du tout cachée dans cette ville, qui a plein de couleurs, qui est une ville très agréable, qui n'est pas une grande ville non plus, mais qui est une ville super ouverte où il se passe beaucoup de choses. Tu as des expositions, tu as plein de concerts, plein de gens qui vont faire des concerts à Brighton. Tu as une super ambiance dans la ville, tu le sens. Tu as un côté de la ville aussi qui est très beau, très beau, très résidentiel, tu vois, très cher, etc. Tu as des côtés un peu plus working class, tu vois, tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Tu sens vraiment qu'il y a une vibe vraiment particulière par rapport à, je sais pas, Birmingham. Bon, Londres, c'est différent parce que tu as tout à Londres, mais une ville comme Birmingham, c'est un peu comme Manchester, mais en beaucoup plus petit et
Ok.
sur la côte. Mais tu as vraiment une vraie vibe, c'est un truc sympa. Et comme je le disais un tout petit peu tout à l'heure, finalement, ils ont pas grand-chose au niveau du sport. Ils n'ont pas une équipe de rugby, tu vois, je sais pas, ils n'ont pas une équipe de basket. Il y a du cricket dans cette région-là. Mais voilà, donc le foot, ça a longtemps été tout ce qu'ils avaient et ça a longtemps pas fonctionné, puisque encore une fois, il y a 10-12 ans, ils végétaient dans les ligues inférieures, ça se passait pas bien, etc. Et puis le club a été sauvé de la banqueroute, est reparti de très bas et petit à petit a remonté les échelons pour finalement arriver en première ligue. Donc pour la première ligue, ils ne connaissaient pas pour la première fois de leur histoire, avec un club vraiment bien structuré. Et bon. Ils ont un propriétaire quand il a racheté le club, qui est lui-même un supporter de Brighton à la base, dont je crois le grand-père était déjà au conseil d'administration bien avant. Donc, c'est vrai que je pense que ça aide aussi d'avoir quelqu'un qui est ton propriétaire et qui est lui-même passionné déjà par le club, qui a beaucoup d'argent et qui surtout fait peut-être pas les choses comme les autres dans le sens où. Même si c'est un gros, gros parieur, Tony Bloom, quand je dis un gros parieur, c'est un des meilleurs joueurs de poker de toute l'Angleterre. C'est un gros, gros parieur. Il parie beaucoup sur tout ce qui bouge quasiment, tous les sports possibles. Mais c'est aussi quelqu'un de tellement intelligent qui savait très bien que si tu commençais à dépenser l'argent n'importe comment en arrivant en première ligue, à faire n'importe quoi, eh ben, tu allais te brûler les ailes bien trop rapidement, comme d'autres l'ont fait avant lui et avant eux. Et donc, ils ont eu cette approche complètement différente. Dans le sens où on va continuer à construire pierre par pierre, étape par étape, doucement, en faisant les choses intelligemment, notamment avec la data, par exemple, qui aussi, je pense, a convaincu des herbiers dans un sens. Et finalement, il a redonné vie complètement à ce club, Tony Bloom, mais complètement, complètement, avec des supporters qui sont là, qui sont à fond. Pour ceux qui sont jamais allés à l'Amex Stadium, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est un petit stade, hein, c'est pas grand, c'est 22 000, je crois, un truc comme ça, peut-être 25 000 même, maximum. Mais tout le monde est proche du terrain, tu sens l'ambiance, c'est exceptionnel, il y a un vrai pèlerinage pour aller jusqu'au stade. Voilà, moi, je trouve ça magnifique. Et peut-être qu'un jour, ils auront besoin de grandir encore plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait sur les 5 dernières saisons, c'est juste magnifique, quoi.
Est-ce que tu penses que la connexion qui a semblé quasi immédiate entre les supporters de Brighton et de Derby, c'est uniquement le fait des bons résultats qu'il y a eu l'année dernière, qui avait d'ailleurs bien commencé avec Graham Potter en championnat, qui s'est poursuivi par la suite? Ou est-ce que tu penses qu'il y a un côté personnalité qui a tout de suite matché avec de Derby? Est-ce que tu penses que c'est juste les résultats comme ça pourrait être n'importe quel autre entraîneur? Parce que tu sais, il y a le fameux. Il y a une espèce de tifo, de grande bâche dans les tribunes de la Mecque, avec, je crois que c'est de Italian Job ou quelque chose comme ça, avec de Zerbi aux couleurs de l'Italie, etc. Tu vois, et ça, c'était au bout de 10 matchs, en fait. Et ça n'arrive pas toujours, en fait.
Non, mais c'est vrai que bon, la passion des supporters anglais, voilà, elle est là, je n'ai pas besoin de te la décrire ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'ils l'ont vu arriver. Ce qui est très vrai des Anglais aussi, tout à l'heure, j'étais un peu critique, enfin, un peu critique dans le sens où c'est vrai qu'ils ne s'intéressent pas trop à ce qui se passe à l'étranger, enfin, pas dans leur majorité en tout cas. Mais en revanche, quand un des Herbie arrive à Brighton, tu peux être sûr que tous les supporters de Brighton vont aller chercher, regarder ce qui s'est passé avant, lire, écouter ce que plein de gens peuvent dire dans les émissions de télé, à la radio, les podcasts, voilà tout ça, ce qui peut être écrit. Ça, c'est sûr. Donc, je pense que très rapidement, ils ont su à qui ils avaient affaire. D'accord, c'est des Herbie, c'était un. Quand il était à Sassuolo, il a fait ça. Bon, après, il est parti au Shakhtar, c'est un petit peu différent. Mais. Ces principes-là sont comme ça, Guardiola en parle, Ancelotti en parle, ben voilà, tu vois, il y avait aussi toutes ces déclats qu'on a ressortis quand il est arrivé ici en disant, regardez, tout le monde parle de lui, les plus grands entraîneurs parlent de lui de cette façon-là, tout le monde est dithyrambique. Donc, il y avait ce côté-là aussi. Donc, il est arrivé inconnu, mais très rapidement, il n'était plus du tout inconnu déjà. Et deux, il y avait tous ces avis super favorables qui venaient de partout, de tout ce qu'on pouvait écrire et dire. Donc, déjà, ça a beaucoup aidé, ça. Tu vois, si c'était un gars qui était arrivé et il restait sur 2 échecs, par exemple, tu avais des joueurs qui étaient avec lui avant qui disaient, ouais. Franchement, il avait aucun côté pédagogue, enfin, je vois, qui les démontait. Je pense que la relation au départ aurait été différente. Là, c'est vrai que à Brighton, ils se sont dit, waouh, mais ça se trouve, on a vraiment un gars qui va faire la différence, qui va nous amener encore un niveau au-dessus. Normalement, sur ce qu'on lit et ce qu'on nous dit, il devrait en plus bien faire jouer l'équipe. Donc, voilà, c'est génial. Et donc, je pense que tout de suite, on dit, bah, vas-y, on va lui donner une chance, et une belle chance. On va être là derrière. Et quand en plus, il arrive. Et que quasiment tout de suite, ça fonctionne. C'est sûr que tout de suite, ils sont tombés amoureux fous, quoi. Tu vois, c'était vraiment. C'était ça, c'était le coup de foudre. Coup de foudre qui était un petit peu préparé avant parce qu'ils avaient fait leurs recherches. Et puis après, quand tu le vois arriver, quand tu le vois s'exprimer, quand tu le vois célébrer des buts sur le bord de la touche, quand tu l'entends dans les après-matchs, quoi, tu dis, bon, voilà. Et puis après, le football développé était tellement beau, finalement, tellement. Potter, c'était bien. Potter, il faisait plein de choses très bien. Il y avait un problème dans la finition, parce que rappelle-toi, j'en parlais souvent, ils avaient des XG qui étaient largement au-dessus des buts qu'ils avaient en vrai, en fait. Mais c'était bien dans le jeu, mais ce n'était pas au niveau de ce que De Zerbi a fait. Donc c'est vrai que côté Brighton, on était déjà très content avant. Là, il arrive et tout de suite, tu sens sa patte, tu sens l'ambition, tu sens que ça va, que la mayonnaise va prendre et que ça se trouve, ça va être une saison. Au-delà de toutes les espérances. Donc, je pense que tout de suite, ils ont été, ouais, ils sont tombés amoureux tout de suite, tout de suite.
Et un an plus tard, enfin un peu plus d'un an plus tard maintenant, que dit la presse anglaise du travail de Derby? Parce qu'il y a plein de manières d'évaluer la qualité du travail. Il y a évidemment les résultats, la qualité de jeu, ce qu'en disent les fans, la connexion qui se crée avec les fans. Il y a aussi un élément qui est capital, je trouve, et qui a toujours marché avec Derby partout où il est passé, c'est la progression individuelle des joueurs. À Benevento, il y a des joueurs avant et après Derby qui étaient totalement différents. À Sassuolo, évidemment que c'était le cas de manière encore plus éclatante qu'à Benevento. Au Shakhtar, moi j'ai vu des joueurs progresser. Tout le monde parle de Mudryk, mais Mudryk, s'il ne connaît pas de Derby, je ne suis pas sûr qu'il soit vendu 100 millions d'euros ou un truc comme ça peu de temps après, à Chelsea d'ailleurs. Là, quand tu regardes Brighton, Jason Steele, c'était un no-name total. Aujourd'hui, c'est devenu un bon gardien. C'est pas un top gardien, mais c'est devenu quand même un bon gardien. Dunk, il découvre la sélection. Pascal Gross, il découvre la sélection. Enfin, on sent qu'il y a des joueurs qui étaient sans doute des bons joueurs, peut-être pas assez. Peut-être que leur qualité n'était pas assez exploitée, ou peut-être que ils ont découvert un autre type de football qui convient mieux à leur qualité aussi, tu vois. Et je trouve, moi, au-delà même des résultats qui sont, évidemment, c'est facile de prendre le classement et de lire Brighton, ils ont fini sixième, je crois, l'année dernière. Ça, c'est 6, hein, ouais. Et donc, qualification en Europa League, et voilà, etc. Mais ce qui est plus marquant pour moi, c'est comment tu as réussi à faire progresser des joueurs.
Et franchement, je pense que c'est le constat que beaucoup font aussi ici. Donc, un an après, c'est toujours aussi intéressant à suivre, même s'il y a plein de choses maintenant, plein de systèmes préférentiels, plein de circuits préférentiels, plein de choses que tu connais déjà à force d'avoir regardé et qui sont là et que même les adversaires connaissent et qui passent quand même, déjà, à la base. Cette saison, les résultats ont été un peu plus compliqués. Tu vois, là, c'est 2 victoires sur les 9 derniers matchs et les 2 contre une équipe de l'Ajax que tu connais bien, qui est au fond du trou, enfin, au fond du trou, surtout lors du premier match.
Ouais, mais quand même, ouais.
Moins, mais bon, quand même. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué de jongler entre la Ligue Europa et le championnat. Ils ont eu en plus un calendrier assez compliqué au départ aussi. Donc, il y a eu des matchs, des défaites qui ont fait très mal. C'est la Aston Villa surtout, où ils sont humiliés complètement, où il n'a pas trouvé les solutions. Où, même si dans le jeu, ce n'est pas catastrophique, quand tu perds 6-1, c'est, voilà, ouais. c'est inacceptable dans un sens quand tu es Roberto De Zerbi. Hein, tu vois, c'est
bien mais, sûr. Bon,
à Brighton, ils sont dit, voilà, ça arrive malheureusement, mais tu sais aussi que ça n'arrivera pas tous les jours. Mais même quand c'est un peu plus compliqué comme en ce moment, il n'y a pas de critique. Parce que, comme tu l'as dit, ils sont 7e en championnat, donc c'est loin d'être catastrophique. Ils vont se qualifier en Ligue Europa. Je pense, en tout cas, ils sont très bien partis avec l'OM pour avoir ces 2 premières places dans ce groupe-là. Parce que le jeu est encore très bon, très très bon même. Le 2e but contre l'Ajax, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le plus récent. Yo, tu as regardé le match comme moi, exceptionnel. Mais dans le sens où, même si tu sais que ça va se passer comme ça, dans un sens presque, c'est bam, bam, bam. Enfin voilà, c'est juste un football exceptionnel. Donc, il a eu des blessures aussi. Et je pense qu'il n'est pas jugé responsable en Angleterre de ces petits couacs-là, de ces petites périodes sans vraiment victoire, ces matchs nuls par-ci, par-là, où ils encaissent des buts. C'est une des rares équipes en Première Ligue qui a toujours encaissé au moins un but en championnat. C'est assez fou quand même. Les deux seuls matchs où ils n'encaissent pas de but cette saison, c'est les 2 contre l'Ajax. Sinon, il y a toujours au moins un but, parfois même trop souvent 2, je pense, à son goût. Donc c'est vrai que défensivement, il a eu du mal à trouver la solution, à faire de cette équipe une équipe solide. J'étais un peu critique à un moment par rapport au fait qu'ils changeaient toujours de défense. Les 4 n'étaient jamais les mêmes, surtout dans l'axe. Tu avais Dunk et Igor, Dunk et Webster, Van Eyck et Webster, Van Eyck et Dunk, Van Eyck et Igor. Et je me disais, je veux bien qu'ils cherchent la solution, qu'ils cherchent la bonne formule, etc. Mais à un moment, je trouve qu'il n'aidait pas l'équipe. En plus, tu as Estupinan qui s'est blessé. Sans Estupinan, tu enlèves une grosse partie de son système, de sa façon de jouer, et avec le ballon et sans ballon aussi. Pour Mitoma, par exemple, il s'est retrouvé le pauvre complètement perdu, alors que lui et Estupinan, c'était des jumeaux sur le terrain qui trouvaient les yeux fermés. Là, il n'y a plus Estupinan, et comme par hasard, Mitoma, il est un peu moins performant. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui ont expliqué aussi cette période un peu compliquée. Mais en Angleterre, rien, quoi. Très peu de critiques. À Brighton, du tout non plus. Et puis, tu vas voir qu'il va réussir à s'en sortir. Il va réussir à trouver des solutions. Et ils vont repartir. Ils vont encore faire une très belle saison.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu parlais de la charnière, c'est marrant parce que je trouve que ils se sont affaiblis. Moi, je trouve que quand ils démarrent la saison, ce qui n'est pas illogique d'ailleurs, hein, ils sont affaiblis par rapport à la saison précédente. Ce qui n'est pas illogique parce que c'est un club tremplin. Et donc finalement, la qualité des joueurs, tu les vois plus à la fin de la saison qu'au début du parcours. Ouais. Hein. Ce qui est logique. Je veux dire, Caicedo, c'était pas le Caicedo du mois d'août, c'était pas le Caicedo du mois de mai.
Tout à fait.
Donc, effectivement, McAllister, Caicedo, ça fait très mal. Colwill, ça fait très mal.
Ah, très, très mal.
Et d'ailleurs, je trouve qu'au milieu de terrain, même s'il y a des bons joueurs aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas le dynamisme de Caicedo et McAllister, qui restent encore aujourd'hui, je trouve, même s'ils font plein de choses bien, tu as raison, dans l'élaboration du jeu, etc., je trouve qu'il y a des changements de rythme que proposaient Caicedo et McAllister qui, aujourd'hui, sont absents du jeu de Brighton et qui peuvent peut-être aussi expliquer le fait que, tu as raison, ils encaissent trop de buts. D'ailleurs, je crois qu'ils sont 12e défense de Première Ligue ou un truc comme ça. Donc, effectivement, c'est compliqué. Mais finalement, Je retrouve un peu le de Zerbi Sassuolo, c'est-à-dire capable de se prendre des 5 buts, etc. contre l'Atalanta, à chaque fois ils prenaient des volées, etc. Ce qui est plus compliqué, je trouve, cette saison, c'est qu'ils ont plus de mal à se créer des occasions. Et tu vois, si on prend, par exemple, je regardais les XG tout à l'heure, si on prend le classement des XG l'année dernière, ils étaient deuxième derrière City. Et cette saison, ils doivent être huitième, je crois, au classement des XG. Ils ont beaucoup plus de mal à se créer des occasions. Et tu disais Mitoma qui était moins éclatant que la deuxième partie de saison l'année dernière. Il y a João Pedro où tu sais pas encore. C'est typiquement un joueur que j'ai du mal à évaluer parce que parfois je le vois faire des choses qui sont dans le jeu, hein, je parle pas seulement sur la finition, qui sont vraiment de
Ouais, tout à
qualité.
fait.
Il comprend bien les espaces. Tu sens que c'est un joueur intelligent et tout. Par contre, des fois, tu te dis devant le but, il y a des trucs qui cliquent pas tout à fait encore. Donc,
Non.
t'as raison, il va travailler dessus. Et de toute façon, tu peux donner n'importe quel joueur à De Zerbi. C'est assez rare qu'il t'en rende un moins bon que quand il est arrivé.
Ouais, c'est
Ça, c'est une constance. Mais effectivement, je trouve que défensivement, Igor, c'est clairement pas Colwill. J'ai du mal à comprendre le recrutement
ouais,
d'Igor,
moi aussi un
perso.
petit peu.
Je trouve. Parce que même s'il connaissait dans les grandes lignes ce type de football à la Fiorentina, parce que Italiano est quelqu'un qui
Ouais,
a des principes similaires à De Zerbi, il était déjà en difficulté à la Fiorentina. Donc, c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre ce recrutement-là. Et tu as parlé des blessés, il y en a eu trop. Et juste sur les changements, moi aussi, je suis comme toi, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait autant de changements. L'explication de Zerbi, qui vaut ce qu'elle vaut, et on peut être d'accord ou pas d'accord, et il le répète assez régulièrement, c'est que pour lui, alors il le dit pas trop en public, et il a raison, je pense, parce qu'il essaye de maintenir un peu tous ses joueurs, tu vois, sur un espèce de pied d'égalité, ou pas trop les descendre, entre guillemets, mais ce qu'il explique, c'est que c'est pas tant une question physique de jouer tous les 3 jours, c'est une question de gestion émotionnelle et de stress. Et il estime que, comme il a plein de jeunes joueurs, ou des joueurs un peu plus confirmés, mais qui n'ont pas cette habitude-là de jouer tous les 3 jours. Et je parle vraiment pas du côté physique, parce que ça, je pense qu'il y a plein de joueurs qui seraient capables de répéter les efforts. Par contre, cette gestion d'exigence, de stress continu, c'est-à-dire que tu as à peine fini un match que tu dois te remettre déjà dans le suivant, alors que ces mecs-là, ils sont habitués finalement à jouer un match par semaine. Et il y a une influence, et c'est marrant que tu sois là pour en parler, c'est en Angleterre, l'importance du day off, qui est culturel, que t'as pas en Italie. Et je sais que De Zerbi déteste ce day off. Autant l'année dernière, ça lui posait pas trop de problèmes, parce que finalement, tu avais assez de séances d'entraînement pour travailler. Autant cette saison, c'est compliqué.
Ouais, t'as raison. T'as raison. Je pense que s'il pouvait, il changerait d'autres choses encore de cette culture anglaise qu'il adore. Hein, c'est pareil. Et puis, je pense
Bien
qu'il est
sûr.
fait pour l'Angleterre aussi. Mais oui, il y a des côtés qui l'énervent un petit peu. Le manque du dynamisme au milieu, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est le recrutement de Baléba, déjà à Lille, par exemple. Alors là, il n'est pas encore prêt, mais il va être prêt bientôt, surtout avec
Ouais.
Derby. Et je pense qu'il apportera ça parce que Daoud, il a 27 ans. Et puis Daoud, ça n'a jamais vraiment été ce joueur non plus. Parce que Pascal Gross, c'est un génie pour beaucoup d'entre nous, mais c'est un génie qui a un seul rythme, finalement. C'est un génie qui n'a pas de différence comme ça. Et que Billy Gilmour, qui est peut-être encore l'autre qui peut jouer aussi dans ce rôle-là, est jeune encore. Et pareil, le changement de rythme, les accélérations balle au pied, ce n'est pas non plus son truc. Donc ça va venir. Effectivement, quand tu perds Caicedo et McAllister et Colwill le même été, ça fait très mal. Je suis d'accord avec toi. Quand en plus Ferguson a encore quelques problèmes de blessures parfois et que tu ne peux pas vraiment lui donner, tu vois, une série de matchs d'affilée parce que. Mais d'ailleurs, Welbeck, c'est un peu pareil aussi. Tu vois, ils ont quand même quelques soucis à ce
Ouais.
niveau-là. Mais il y a des trucs qui Il me surprend encore parfois. Alors, des fois, ça marche très bien. Des fois, ça marche pas du tout. Mettre James Milner arrière droit à City, quand en plus, tu vois, au niveau que quand la compo t'arrive dans les mains, que tu es dans ton vestiaire, tu vois que c'est Jérémy Doku qui va sûrement jouer du côté de Milner. Je sais pas, à un moment, tu dois dire dans ta tête, au lieu de penser comme des Zerbi en disant oui, mais Milner m'apporte un contrôle du ballon, du jeu, et il peut venir au milieu de terrain. Et Milner, c'est un joueur fantastique, même encore aujourd'hui à 36 ou 37 ans. Tu dois dire contre Doku, ça va pas le faire et ça l'a pas fait. D'ailleurs, dès qu'il est sorti à la mi-temps, à la pause, la seconde période était bien meilleure pour Brighton. Mais voilà, c'est aussi ça qui fait que De Zerbi est spécial, c'est qu'il a cette idée en tête de Milner contre City dans ce rôle-là qui est très important et il va le tenter. Et puis ça marche pas, bah, tu peux toujours changer hein, de toute façon en cours de match. Donc voilà, mais et juste pour finir sur les progrès individuels, je regardais Ansu Fati hier jouer. Et je ne sais pas ce qui va se passer avec Ansu Fati, je ne sais pas s'il repartira au Barça à la fin de la saison, s'il restera. Je ne sais pas, on ne l'a pas entendu encore ici en Angleterre, il n'a pas fait d'interview, je ne sais pas s'il est heureux, pas heureux ou quoi. Enfin, tu vois, je ne sais pas s'il aime Brighton, l'anglais, les fish and chips, tout ça, je ne sais pas. Mais je le vois jouer hier. dans un match qui est rendu facile par Brighton et où Brighton est largement au-dessus de l'Ajax, ça c'est sûr. Et je le vois faire but passe des, le mouvement, j'avais l'impression qu'il était vraiment heureux d'être là, tu vois.
Le sourire,
Le sourire, exactement. Et je me dis que si tout va bien, s'il se blesse pas par exemple, on touche du bois pour lui, si ça continue comme ça, si c'est une bonne saison, une saison positive collectivement et individuellement pour lui, il aura fait un an. Tu vois, c'est une année Erasmus, en gros. Tu sais, quand tu pars, et c'est son année Erasmus avec des herbiers à Brighton, au bord de la mer. Il va kiffer. Et puis après, mais à mon avis, tu vois, il va retrouver l'envie de jouer, le bonheur, et il va être meilleur en plus que quand il est arrivé à Brighton, comme tu disais tout à l'heure. Et un joueur comme lui, je trouve, il symbolise tellement bien, finalement, des herbiers et ce que des herbiers peut apporter à ce club-là, mais à n'importe quel club, finalement, parce que je pense que il aurait réussi n'importe où, même à Manchester United, je pense qu'il aurait pu, réussir. Tu vois. Donc, non, franchement, fantastique, collectivement, individuellement.
C'est marrant que tu parles de United, parce qu'il y a une question qui va se poser assez rapidement du côté de Brighton. On sait que ce club anticipe sur les joueurs, mais Paul Barber avait expliqué aussi qu'ils anticipaient sur les entraîneurs. Quand Graham Potter, même s'il ne s'y attendait pas, je crois qu'il a raconté qu'il avait reçu un coup de fil à 7h moins le quart le matin de Todd Boehly, etc., en disant bah, je veux parler, c'est le terme anglais, mais je veux négocier avec Potter. Ils avaient une liste et en haut de la liste, c'était de Zerbi. Si la saison se passe bien et mettons qu'elle s'arrête à l'instant T, là, c'est-à-dire que tu finis 7e, qu'en Europa League, tu finiras peut-être que 2e, donc ça veut dire une phase de play-off, mais que mettons que tu arrives en 8e de finale. Par exemple, hein, on ne va pas aller trop loin non plus, tu vois, d'Europa League. Il y a la question de... il va être courtisé, ce garçon. Parce que aussi, il y a des grands clubs anglais où ça ne marche pas, dont United. Ouais. Tu te dis, est-ce que le... Parce que tout le monde dit, ça a été appuyé par tous les propos de Guardiola qui ont fait des caisses sur De Zerbi. Et je ne doute pas de... On sait que Guardiola est toujours très positif avec les entraîneurs adverses. Enfin, pas tous, mais 90%. Et donc, il y a des gens qui remettent un peu en cause. Est-ce qu'il est honnête quand il dit du bien de tous les entraîneurs, etc. J'ai aucun doute sur le fait que De Zerbi, il l'apprécie, etc. Que les deux s'apprécient d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote qu'avait raconté... Qui avait raconté ça? Je crois que c'est Léla Dani, le grand pote de Zerbi. En fait, après le match, je pense que ça devait être le match aller l'année dernière entre City et Brighton, où je pense que City doit battre Brighton le 3-1, 22 octobre 2022.
Ouais. Donc il y a le 1 partout, le Brighton City avec le but d'Anciso, c'est 1 partout.
Et City-Brighton, 3-1, doublé d'Haaland, but de De Bruyne et un but de Trossard, à l'époque qui était encore à Brighton. Et en fait, Adani raconte que Guardiola était allé dans le vestiaire de Brighton pendant que De Zerbi n'était pas là. Donc, je pense que De Zerbi, tu vois, il devait répondre en zone flash d'interview à la télé anglaise ou peut-être qu'il était en conférence de presse, etc. Et De Zerbi n'était pas là. Il y avait des membres de staff de De Zerbi. Et Guardiola avait dit, franchement, si vous suivez ce mec-là, vous allez faire une grande saison et vous allez faire tous individuellement une grande carrière. Et donc, Guardiola, tu vois, prenne cette responsabilité-là et tout, c'est quand même assez marquant. Et tout le monde dit, justement, bah, De Zerbi pourrait prendre la suite de Guardiola quand Guardiola partira de City, etc. Sauf qu'il y a peu de chances que ça se produise l'été prochain, que Guardiola parte de City. Peut-être que De Zerbi ne va pas enchaîner une troisième saison à Brighton. Et donc, il y a forcément une question de qu'est-ce qu'il fera l'année prochaine.
C'est une bonne question. Pour Guardiola, je pense qu'il faudra attendre la fin de saison suivante, donc 2024-2025. Effectivement, ça voudrait dire rester, donc finir cette saison à Brighton, de toute façon il n'y aura pas de souci. Est-ce qu'il restera l'année prochaine encore? Je ne sais pas. Il a l'air heureux, sincèrement, il a l'air heureux. Alors parfois, il est un peu, tu le connais, il est là avec sa cigarette et voilà, il y a des choses, il faut que ça aille plus vite parfois, et ça change un peu tout le temps parfois et tout ça, mais ça fait partie du personnage, un peu du folklore. C'est toujours pareil. Je pense que si cet été il perd encore, on va dire, Mitoma, Ferguson et un Solly March, par exemple, qui lui aussi, hein, il l'a transformé. Alors, Mitoma, je crois qu'on ne se rend pas compte parce qu'il était à l'Union Saint-Gilloise avant, ils l'ont récupéré. Les Anglais ne l'avaient pas vu avant, finalement, donc ils vont arriver Mitoma et puis très rapidement, finalement, ils voient un super joueur. Bon, voilà. March, ça fait longtemps que les Anglais le connaissent, tu vois. Et de voir le niveau et qu'il a atteint, j'allais dire, mais en fait qu'il atteint en ce moment et qu'il va continuer à atteindre parce qu'à chaque fois le niveau augmente, incroyable. Mais voilà, imaginons que tu perds Marsh, Mitoma et Ferguson, qui sont peut-être aujourd'hui les trois joueurs, on va dire, les plus importants, parce que bon, Dunk, c'est un peu plus vieux, Gross aussi, c'est plus vieux, etc.
C'est les plus bankable, en tout cas, pour les gros clubs. Ouais.
On va dire, allez, Estupinan, je change. Estupinan, Mitoma et Ferguson. Peut-être qu'il va se dire, bah là, vous êtes gentil, mais bon, l'été dernier, j'ai rien dit pour Colwill, McAllister et Caicedo. Là, je ne peux pas non plus faire des miracles parce qu'on va les remplacer par des bons joueurs, mais qu'on 20, 21, 22, qu'il va falloir éduquer, qu'il va falloir faire progresser, qu'il va falloir faire travailler, etc. etc. Donc, c'est peut-être c'est la seule chose qui me fait penser que peut-être il pourrait se dire, bon, j'ai fait deux années magnifiques, on ne pourra jamais faire mieux qu'une sixième place dans le contexte de la première année quand tu penses à City, United, Liverpool, Tottenham, Arsenal et Chelsea.
Et Newcastle maintenant en plus.
Newcastle maintenant, tu as raison. De finir sixième, c'est déjà en soi, c'est finir premier en fait finalement pour ces clubs-là. Extraordinaire. Donc peut-être qu'il se dira ça. Maintenant, je pense qu'il sait aussi très bien qu'il peut arrêter à Brighton l'été 2024, faire une année sabbatique et aller à City si Guardiola s'en va ou à Liverpool si le club s'en va ou à United si effectivement ils ont viré Ten Hag et tout ça. Il peut aussi rester à Brighton, finir une troisième saison et aller à City ou à Liverpool ou à Manchester United ou je ne sais pas où à ce moment-là. On verra, mais tu as raison, il sera très courtisé, ça c'est sûr.
En Angleterre, on pense qu'il est déjà prêt pour ce type de club ?
Ouais. Okay. Ouais.
Personne ne pose la question. Sans réserve ?
Non, aucune. Okay. Aucune. Aucune. Parce que je ne sais pas, pourquoi, je ne sais pas. Là, tu le vois emmagasiner beaucoup d'expérience avec la Coupe d'Europe, même si ce n'est pas la grande Ligue des Champions, celle-là, il l'a déjà jouée. Mais de faire l'enchaînement Coupe d'Europe, peu importe laquelle, champion, donc première année, Coupe d'Europe, première année, voilà, c'est pas facile. Mais tout le monde sait aussi que c'est pas facile. C'est encore moins facile avec un petit effectif, entre guillemets, que si tu vas à City, par exemple, avec tous les joueurs que tu as, ce sera plus un problème pour De Zerbi de faire Ligue des Champions, championnat, Ligue des Champions, championnat. Donc,
Et puis, mine de rien, Julien, sur cette Coupe d'Europe-là, tu vois, il y a un truc, c'est que dans ton groupe, t'es pas avec. Sans manquer de respect, mais le Legia Varsovie,
ah oui,
Molde et Aiken, tu vois, en Suède. Ouais. C'est que tu as quand même des clubs qui parlent sur le niveau européen.
Tout à fait. Tout à fait. Et s'ils sortent de ce groupe-là, avec les problèmes qu'ils ont eus, les blessures, cette découverte. Mais même pour tout le monde au club, on me racontait l'autre jour pour le match d'Athènes, donc le premier match dans leur histoire à domicile, mais aussi le premier match dans toute leur histoire européenne. C'était, au club, c'était l'effervescence. Mais la tension, incroyable, quoi. Tu vois, au final, ils perdent ce match, ils sont menés, ils reviennent, ils sont. Enfin, voilà, ils se. Vraiment, comment on dit en français
Le roller coaster, ouais.
Le roller coaster, montagne russe, tu vois. Mais au final, tu le sentais même avant le match, tellement tout le monde était à la fois excité, mais paniqué, tendu, mais qu'est-ce qui se passe, comment on va faire, comment, tu vois. Et donc, bon, lui, pas trop, je pense. Mais sûrement chez les joueurs, j'imagine. Mais en tout cas, dans tout le reste du club, c'était. Voilà, donc ça aussi, ce n'est pas facile. Si tu vas à City ou encore plus à un Liverpool ou quoi que ce soit, bon, voilà, c'est ça, ça y est, maintenant, ils ont l'habitude, c'est réglé, c'est bam, c'est l'expérience. Et donc, je pense que c'est pour ça. Mais je sais pas d'où pourrait venir la réserve, tu vois. Ce serait quoi finalement maintenant ? Ce serait ce caractère un peu impulsif qu'il a parfois ? Guardiola est là, Klopp là peut-être même encore plus. Est-ce que ce serait, je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire
moins d'autorité ? Ouais, parce que tu vois, il n'y a pas trop de joueurs en plus qui t'expliquent que ça va pas, que humainement il n'est pas sympa, qu'ils n'ont rien appris, que tu vois.
Ouais, pas du tout.
C'est même plutôt l'inverse. Donc,
Ouais, je pense que tu as même des joueurs aujourd'hui en Première Ligue, dans les six gros clubs, qui disent, ouais, ce serait quand même, ça a l'air cool, tu vois, d'être entraîné par des arbitres, j'aimerais bien. Et même, tu vois, même, j'interviewais Bissouma l'autre jour, donc Bis, il a pas connu des arbitres. Mais même lui, tu vois, disait, Brighton, je sais même pas où c'était. Quand ils me disent à Lille, bah, tu vas à Brighton, il voulait pas y aller déjà, mais il se dit, je savais pas où c'était. Et dès qu'il est arrivé, il a dit, ouais, c'est génial ici, etc. Mais je pense qu'il y a des joueurs aujourd'hui, maintenant, tu connais un peu plus peut-être où est Brighton, il y a la Coupe d'Europe, mais qui iraient à Brighton juste pour des arbitres. Et je pense, comme je te le disais, tu as beaucoup de joueurs qui parlent entre eux en sélection, forcément, tu vois. Et quand Dunk va en sélection ou quand Ferguson va à la sélection irlandaise ou tu vois…
Pascal Gross en Allemagne.
Par exemple, tu vois, je pense que tu as des joueurs qui sont aussi en Angleterre dans d'autres clubs qui disent alors c'est comment, la saison elle se passe comment et Desherby c'est comment. Et ils doivent dire, ouais, mais Desherby c'est génial, tu vois, il me fait… un peu l'impression que Guardiola avait fait sur Thierry, tu vois, qu'il lui a fait réapprendre le football à 30 ans finalement, ou à 31 ans. Et je pense que c'est pareil là. Et donc tu dois te dire, oh, ce serait cool. Et donc non, franchement, il y a, je vois même pas où pourrait être la réserve, sincèrement. Et finalement, j'aimerais tellement le voir en fait. Parce que là, Brighton, c'est génial, mais il y a forcément un moment où, aussi génial qu'il est, il atteindra forcément un plafond et tu ne pourras plus passer. Tu vois, c'est plus possible. L'histoire de Leicester et de Ranieri, aujourd'hui, c'est impossible. Donc forcément, il arrivera à un moment où même lui dira, bah, je ne peux pas aller plus haut, là, c'est fini. Et ça, c'était peut-être la saison dernière, d'ailleurs. Et j'aimerais trop juste le voir à Liverpool ou à City ou à Arsenal ou à Chelsea. Enfin, n'importe quel de ces six gros clubs, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup le voir.
Pour conclure ce podcast, Julien, je vais te demander un petit exercice. Il y a souvent des mots-clés chez De Zerbi qu'il utilise à chaque conférence de presse. Je voudrais que tu me décrives, peu importe l'axe, c'est-à-dire que ce soit le terrain, les résultats, le hors-terrain, ses conférences de presse, tout ce qui peut concerner De Zerbi. En trois mots, pour toi, De Zerbi à Brighton, c'est quoi exactement ?
Alors, pour moi, les trois mots qui résumeraient un peu, c'est, on va dire, là on est quoi, mois de novembre, c'est 14 mois de désherbisme en Angleterre à Brighton. Le premier, c'est semelle. Parce que de tout temps, certains joueurs ont dû contrôler le ballon de la semelle. Tout le monde, je pense, même à notre niveau à nous, même en five, n'importe où, peu importe. Mais que Desherby, en effet, presque un terme de vocabulaire footballistique, que les joueurs en parlent encore aujourd'hui, qu'on leur pose encore la question sur ces contrôles de la semelle systématiques, pas simplement dans certaines positions ou dans certaines zones du terrain, mais systématiquement. Pour moi, c'est lui. Voilà, c'est lui. Et d'ailleurs, lui, hein, très sérieusement, te dira l'importance du contrôle de la semelle, plus que du contrôle de l'intérieur, de l'extérieur, des fesses, de ce que tu veux. Donc, je dirais semelle pour commencer. Le deuxième, je dirais verticalité, comme sur ce deuxième but contre l'Ajax jeudi soir, qui est juste exceptionnel dans sa construction, mais dans cette verticalité qui est recherchée, qui est trouvée, qui est pensée. Ouais. Je trouve ça fantastique. Et la dernière…
Tu sais, une très belle reconnaissance, avant que tu donnes ton dernier mot, une très belle reconnaissance pour lui, alors je ne sais pas s'il le lira, mais il y a Ed Parole, qui est un quotidien néerlandais ce matin, qui disait à l'Ajax, il faudrait un entraîneur comme Roberto De Zerbi. Et quand tu connais la culture de l'Ajax, à quel point l'esthétisme est important, je pense que ça résume assez bien aujourd'hui, même à l'étranger, ce qu'on pense de De Zerbi.
Ah, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans l'after jeudi, quand je suis passé en fin d'émission pour parler un peu de la Ligue Europa, j'ai dit d'ailleurs que finalement, Brighton a joué à l'Ajax comme l'Ajax des grands soirs finalement, des grandes époques. Ouais. Et c'était exactement l'impression que tu avais en regardant ce match. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi et avec le journal néerlandais. Et la dernière, c'est ferveur. Parce que on a beaucoup parlé de passion et d'amour, d'intégration. Et je pense que la ferveur qu'il arrive à transmettre à ses joueurs, à son staff, au public, mais même aux observateurs du football anglais, tu vois, à nous qui regardons tous les matchs, qui allons au stade, qui le suivons. Voilà, cette ferveur, cette passion, j'aurais pu utiliser passion, cet amour qu'il a pour le jeu et pour le foot dans son ensemble et aussi clairement pour son club et pour ses joueurs. Moi, je trouve ça très, très beau, quoi. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça ira cette saison. Et je lui souhaite vraiment beaucoup de succès. Mais voilà, je dirais que ces trois mots pour moi, semelle, verticalité, ferveur ou passion, ça résume plutôt bien, j'ai l'impression, ce qu'on est en train de voir, ce désherbisme.
Merci beaucoup, Julien, pour ce temps passé avec moi à parler de ce génie, Roberto De Zerbi. On te retrouve sur Twitter, sur Insta. N'oubliez pas la télécommande spéciale Julien Laurence avec le petit bouton à côté Netflix. C'est une très riche idée, je pense qu'il faudra développer. Merci encore une fois, Julien. C'est un vrai plaisir de t'accueillir dans le podcast Calcio PP. Et nous, on se dit à très vite. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.